Alors, madame la préfète, monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire de Tarbes, président du département, rapprochez-vous s'il vous plaît. Venez près de nous. Mes chers collègues élus de la Chambre, je ne vais pas vous appeler un par un. Si vous voulez bien venir peupler le podium à côté, je me sentirai un petit peu moins seul. Voilà, surtout ne vous précipitez pas. Merci, voilà, les premiers volontaires. Voilà. Ah, ils sont là. Super. Bien. Alors, je vais essayer de commencer sans tarder. Je remercie les personnalités qui sont présentes. Je sais qu'en cette période que l'autre jour, dans une boutade, je qualifiais de farandole des vœux, les uns et les autres sont extrêmement sollicités. Donc, je sais que certaines des personnalités qui nous font le plaisir et l'amitié d'être à nos côtés sont appelées à aller sur d'autres vœux, d'autres réceptions de vœux dans la soirée. Donc, je vais tâcher de ne pas trop vous retarder et d'essayer d'être peut-être un peu moins bavard que d'habitude, ce qui déjà ne va pas être facile. Bien, madame la préfète des Hautes-Pyrénées, merci de votre présence fidèle et régulière au sein des travaux de la Chambre de commerce et d'industrie, établissement public relevant de la tutelle de l'État, dans des relations qui sont parfois souvent compliquées entre le réseau d'établissement public et l'État, mais jamais entre nous. Et je tiens à apporter le témoignage et nous travaillons en parfaite synergie dans un état d'esprit dont je me félicite chaque jour et merci encore de votre présence. Monsieur le député, cher Jean Bernard, monsieur le président du conseil départemental, cher Michel, monsieur le maire de Tarbes et président d'agglomération, cher Gérard, madame la première vice-présidente du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus départementaux, municipaux, monsieur le président de la Chambre de métier et d'artisanat, mon cher Daniel, monsieur le président du tribunal de commerce, ça y est, je me suis lancé là-dedans, monsieur le maire de Bagnères, cher Claude, je me suis lancé, pardon ceux que je ne vais pas citer, parce que quand je me lance à ce genre d'aventure, je sais que j'en oublie quelques-uns et je suis toujours après fort embêté. Mesdames et messieurs les directeurs, chers amis, merci d'avoir répondu aussi nombreuses et nombreux à l'invitation de votre Chambre de commerce et d'industrie pour la traditionnelle réception de présentation des vœux de la Chambre et de son président et de ses élus. C'est souvent un exercice un peu formel, mais nous le faisons et nous y sacrifions avec beaucoup de plaisir et d'empathie et de sympathie. Je voudrais bien sûr commencer ce propos en présentant à chacune et chacun d'entre vous des vœux d'abord personnels, très sincères, en mon nom et en votre nom à tous, des vœux tout d'abord de santé. Malheureusement, nous y sommes parfois confrontés, il nous est arrivé dans nos vies personnelles d'y être confrontés, nous y sommes parfois confrontés dans nos proches entourages et lorsque la santé n'est pas au rendez-vous, le reste n'est que dérisoire. Donc je vous souhaite avant tout à chacune et à chacun la santé. Je vous souhaite également la sérénité, car nous exerçons chacun à nos fonctions des qualités, des responsabilités, parfois difficiles, parfois lourdes, parfois complexes. Il faut, pour exercer celle-ci, avant tout de la sérénité, car l'emportement parfois nuit et les tensions nuisent à la qualité des décisions. Donc je nous souhaite beaucoup de sérénité. Je nous souhaite et je vous souhaite également beaucoup de bienveillance, car dans ce monde parfois un peu abrasif, et parfois, je reconnais que dans mon style personnel, j'y contribue quelque peu à la fragilité de ce monde, un peu de bienveillance ne peut pas nuire à la qualité de nos relations, à la qualité de notre vie. La prospérité et la réussite économique sont nécessaires, mais pas suffisantes. Dans ce monde abrasif, disais-je, mais aussi instable et incertain, j'ai la faiblesse de penser que les valeurs humanistes ont tout leur sens et que les valeurs humanistes sont nécessaires pour que nous puissions continuer notre chemin. Je voudrais, à mon nom personnel et au nom de l'ensemble des collègues élus de la Chambre de commerce et d'industrie qui sont à mes côtés, d'abord saluer les collaboratrices et les collaborateurs de la CCI, en tête desquels le directeur général Camille Denagiscard, le secrétaire général Patrick Vigne, la directrice administrative et financière Gisèle Tripier, qui en dépit de sa paire de béquilles nous a rejoint ce soir puisqu'elle a eu un accident de ski. Je voudrais, vous le comprendrez, en ces temps incertains, adresser un message particulier aux collaboratrices et collaborateurs de la Chambre. Quelques-uns sont présents ce soir pour leur redire notre confiance, notre affection, notre reconnaissance pour la qualité de leur travail, la qualité de leur engagement. Et quelle que soit l'issue des évolutions du périmètre des actions de l'État, Madame la Préfète, quelle que soit l'issue des missions que le gouvernement a confiées à l'Inspection générale des finances et aux autres corps de contrôle des ministères de Bercy, nous veillerons à ce qu'ils soient traités dans les meilleures conditions possibles et que la qualité de votre engagement, la qualité des missions que vous effectuez soit respectée en tant que telle. Nous n'oublions pas, je parlais à l'instant de valeurs humanistes, nous n'oublions pas que lorsque nous animons un établissement public, nous animons aussi des équipes de femmes et d'hommes qui mènent ici leur mission, leur vie, ont des familles, ont une vie personnelle, et nous ne pouvons pas, et ne croyez pas que même si parfois, au regard de tout ce que nous avons à gérer, on vous paraît un peu lointain ou perché dans les préoccupations qui sont les nôtres, nous perdions de vue cette relation-là et ce caractère essentiel-là. Je voulais le dire ce soir. J'en profite également pour remercier les collègues qui sont autour de moi et qui s'engagent au quotidien pour faire vivre cette maison. Et, vous savez que c'est un mandat passionnant, mais qui est un mandat de chef d'entreprise. Nous sommes tous très pris dans la vie de nos entreprises et c'est pas toujours facile de concilier tout ceci. Vous avez compris aux quelques allusions que je viens de faire, Madame la Préfète, je pourrais vous dire également à mon ami Jean-Pierre Arsène-Pastou, ce député avec qui nous échangeons souvent sur les aléas législatifs qui concernent les réseaux de chambres de commerce et d'industrie, mais aussi de chambres de métiers d'artisanat, de chambres d'année, j'en dirai du monde dans un instant. Vous comprendrez que, dans le fond, j'ai pas très envie, soit comme celui-ci, de m'étendre sur les problématiques et les aspects institutionnels. Simplement pour rappeler que un réseau de chambres de commerce et d'industrie, j'étais hier à la réunion du bureau de CCI France, vit un moment existentiel, qui est un moment existentiel pour l'ensemble des institutions consulaires. J'ai cité la chambre de l'artisanat, on pourrait citer également la chambre d'agriculture, Jean-Louis Pazegon m'a appelé pour s'excuser, il est à une réunion à Paris. Je voudrais quand même dire quelques mots, puisque, mon cher Daniel, j'ai un peu défrayé la chronique en fin d'année dernière en évoquant ce qui me semblait, et ne le semble pas qu'à moi, puisque il y a un amendement qui avait été voté au Parlement, monsieur le député, sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir à réorganiser les réseaux d'appui aux entreprises en un réseau unifié au service des territoires et au service des entreprises les plus fragiles et au service des territoires les plus fragiles. Je l'ai fait et j'en assume parfaitement l'initiative. D'ailleurs, je dois à la vérité et à l'immodestie de reconnaître que j'ai reçu plus de louanges que de critiques à cet égard. C'est parce que je pense que des territoires comme les nôtres, et c'est les propositions que nous pouvons être amenés à faire les uns et les autres, les territoires comme les nôtres méritent de conserver des structures d'appui aux entreprises, des structures d'accompagnement des collectivités, notamment des intercommunalités, et qu'il est parfois important de faire des économies d'échelle et de faire des rapprochements. Et naturellement, je le dis sans aucune prétention, parce que si d'aventure il advenait que ce genre de proposition que nous formulons au niveau national, et je la défendrai la semaine prochaine devant le comité exécutif de la CPME au niveau national, si d'aventure il advenait que ce genre d'initiative voit le jour, ça ne veut pas dire que je me bagarre déjà pour embrayer la présidence unifiée, mais ça veut dire que les destins personnels des uns et des autres me paraissent totalement hors de propos par rapport à l'utilité de maintenir des outils d'accompagnement des entreprises au sein de nos territoires. Plusieurs, au-delà de tout ceci, je voudrais vous faire partager quelques réflexions. Tout d'abord, la réflexion que je viens, au sujet de laquelle je viens de m'épancher avec, je l'espère, vous l'avez compris, une volonté de sobriété, m'incite à vous proposer de partager au moins deux réflexions. La première, c'est, et là je le dis devant la représentante de l'État, devant un parlementaire, devant des grands élus, la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de la pérennité de la notion de corps intermédiaire dans notre pays. Je sais bien qu'il est de bon ton au titre de la modernité, et tu sais que je me targue d'être moderne, ou en tous les cas j'essaie de l'être, il est de bon ton de considérer que toute notion d'intermédiation est devenue désuète. On est à l'ère de la démocratie directe, d'aucuns parlent même de démocratie participative, on est à l'ère du digital, et la tentation est forte de considérer que tout ce qui fait intermédiaire, tout ce qui fait médiation, et les chambres consulaires sont au rang de cette mission-là, paraît superflu, superfétatoire, encombrant, voire source de coûts inutiles. Pour autant, je crois que, et je pense que c'est une conviction que nous serons quelques-uns à partager ici dans cette salle ce soir, pour autant, je crois que bien, la démocratie nécessite la représentation. Je le dis devant un député, et quand on commence à mettre en cause la notion d'intermédiation, ça peut aboutir aussi politiquement une forme d'antiparlementarisme. Il faut faire attention à ces choses-là, je crois. Et Chantal qui a siégé longtemps également au Parlement, Gérard Trémège qui a été parlementaire au contraire également, la mise en cause de l'existence des corps intermédiaires peut paraître un moment de modernité, une concession à la modernité, mais je dis attention, c'est aussi une fragilisation de la démocratie, et je suis de ceux qui pensent que toute démocratie ne peut être que représentative. Sinon, on ouvre la voie à quelques difficultés. Deuxième réflexion que je voudrais partager avec vous, c'est le fait que 36 ans après les lois de fer, de décentralisation, par une espèce de étrange paradoxe, la décentralisation est en train d'aboutir à une forme de jacobinisme girondin. Étrange oxymore. Une forme de jacobinisme girondin parce que, à force de décentraliser, plus ou moins bien, plus ou moins habilement, président du département, je sais, partage mes convictions, on en est à avoir, et je n'ai rien contre l'institution régionale, même si je n'ai pas le plaisir de voir des élus régionaux dans la salle. Ah oui, mais pour moi c'est mon maire, donc. Et voilà, ça y est, vous avez promis le gaffe, ça y est, c'est fait. Mais bon, entre nous c'est pas très grave, entre nous c'est pas très grave. On est en train d'aboutir à une concentration des moyens et des missions au sein des régions. Alors là aussi, ça paraît moderne, et puis on donne tellement de pouvoir aux régions que l'histoire démontre que dès lors qu'on confie un pouvoir, celui-ci n'a d'autre vocation que de centraliser pour affermir sa position. Mais attention, ce jacobinisme girondin, ce jacobinisme régional qui pourrait se mettre en place, pourrait avoir des conséquences au-delà, comme pour la suppression des corps intermédiaires, au moment de l'agréable moment de modernité, pourrait aboutir à des déséquilibres territoriaux. Je n'ose plus prononcer la formule d'aménagement du territoire. C'est devenu un mot un peu ringard. Mais aboutir à un déséquilibre territorial entre les métropoles chefs-lieux de région et le reste des territoires qui sont loin, éloignés des métropoles régionales. Et quand je dis ça, c'est pas pour pleurer sur le lait renversé dans les Hautes-Pyrénées, parce que, comme j'ai souvent l'occasion de le dire, notamment, on est quelques-uns à participer à des réunions au niveau national, on n'est pas plus mal ici qu'ailleurs, hein, et ce que je dis ma collègue Françoise Kerr, présidente de la CCI de la Corrèze, pourrait dire la même chose vis-à-vis de Bordeaux et de la région Nouvelle-Aquitaine, et mon collègue de l'Ardèche pourrait dire la même chose vis-à-vis de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces territoires qui se trouvent éloignés des grandes métropoles ont un besoin absolu de conserver des moyens, de conserver des équipements, de conserver des outils et d'exister. Et une fois que le pouvoir des régions, le pouvoir légitime, la loi de la République des régions, je suis démocrate, vous l'avez compris, je suis un républicain, ni décisions législatives, ni une décision issue du suffrage universel, mais attention, nous pourrions arriver à des déséquilibres et à des sentiments de désespérance et qui pourraient donner libre cours à toutes les formes d'extrémisme. Et il suffit de regarder la dernière étude, une des dernières études à laquelle j'ai eu accès, du CGET, alors c'est l'ex-DATAR, c'est ça, madame la préfète, parce que là aussi, vous voyez, on parle plus d'aménagement du territoire de plan régional, c'est genre des études territoriales, je crois, c'est ça. Et où on montre bien le développement en tâche d'huile des grandes métropoles, et on voit bien que les territoires comme les nôtres, ils ne sont pas leurs vis-à-vis de tout. Ça s'arrête, je ne dirais pas Marthe Tolosa, mais ça pourrait être connoté, mon propos. On va dire Carbone. Mais pour l'Aquitaine, ça s'arrête à Mont-de-Marsan. Et on voit bien que y a un enjeu qui est fondamental pour nous. Ce qui veut dire, et là je rejoindrai ce que disait le maire de Tarbes, ce que disait Gérard Trémère, je trouve toujours l'implantation de ses propres voeux, notre avenir, et vous savez que j'étais de ceux qui ont, en même temps, à une époque récente, plaidé en ce sens, notre avenir passe certainement par deux choses. La première, c'est le rapprochement avec Pau le Verne. C'est évident. Et les cartes du CGT, le témoignage local, quand on fait des diffusions en forme d'araignée depuis les centres métropolitains, les centres urbains, on n'est pas dans la zone de bénéfice de Toulouse, on n'est pas dans la zone de bénéfice de Bordeaux, encore moins, mais par contre, il y a une espèce de conurbation à jouer avec Pau et dans le prolongement vers Bayonne et le Pays Basque. Donc là, il y a une logique. Certes, les Palois et les Béarnais ne veulent pas de nous. Peut-être un jour, ça percevra-t-il. Cher Christian Bouillard, je crois que le seul palois présent ici. Peut-être s'apercevront-ils un jour que les Basques ne veulent pas d'eux, donc ils le savent. Et donc, je vous le dis sous forme décontractée, mais néanmoins très sérieuse, nous proposons aux Béarnais non pas un mariage d'amour, mais au moins un mariage de réseau. Et deuxième nécessité, et c'est le deuxième vœu pieux pour le territoire que je formule ce soir, c'est que néanmoins nous sommes en Occitanie. Néanmoins, nous ne pouvons pas dénier le fait régional, ce que j'ai dit, ne croyez pas. Mais pour autant, il faut réduire la distance. Il faut réduire la distance, et il me semble qu'au moment où on est en train de rénover les infrastructures ferroviaires entre Tarbes et Toulouse, il faudrait rénover, une fois que cette phase-là sera traitée, rénover les liaisons ferroviaires. Et de même que pour notre développement économique. Et Gérard Trémel, je sais quelque chose, puisque lorsqu'il a aidé à l'OSP pour la liaison sur Paris aérienne, de même que nous avons une rotation qui permet de faire les retours de la journée en avion vers Paris, indispensable à notre développement économique, par rapport à notre développement régional, il serait indispensable que nous puissions avoir un aller-retour quotidien, sans halte dans les gares intercalaires, entre Tarbes et Toulouse, pour mettre Tarbes à une heure. Pour mettre Tarbes à une heure de Toulouse, et là nous pourrions peut-être bénéficier de la dynamique de l'agglomération de Toulouse. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. J'avais promis d'être pas trop long, mais comme je n'écris pas mes discours, forcément je pérore, et donc ça peut. Mais il y a mon épouse qui est derrière Gérard et qui me regarde, elle est une vigilante, et tant qu'elle a le sourire, c'est que je n'ai pas été trop long. Merci Christine d'être présente ce soir. Comme vous savez que j'adore les formules, comme vous savez que j'adore les citations, je vais cette année encore finir sur deux citations. La première, excusez la hardiesse du propos, elle est de Winston Churchill. Je ne sais pas pourquoi, parce que ce week-end, je vous recommande. Je suis allé voir le film Les Heures Sombres au cinéma, un film absolument magnifique, avec Gary Oldman qui est extraordinaire dans l'interprétation du rôle de Winston Churchill. Et ça finit par une citation sur le générique de fin de Churchill. Que je vous propose de faire vôtre. Le succès ne dure pas. l'échec ne tue pas. Ça serait bien de ça, ça en phrase. Parce qu'on a peut-être tenté de sa croire en phrase que lorsqu'on a échoué, on est mort. Non, le succès ne tue pas. L'échec ne tue pas. Ce qui compte, c'est la volonté de continuer. Alors, en dépit de toutes les difficultés que nous rencontrons, que nous sommes confrontés, comme j'ai dit, comme beaucoup de territoires de notre typologie, nous avons ici la volonté de continuer. Et quels que soient les succès, quels que soient les échecs, nous continuerons à avancer, et notamment dans le cadre du projet de territoire initié par Michel, coordonné par Chantal et par Gérard. Quelles que soient les difficultés, nous avançons, nous avons la volonté de continuer. Et la deuxième citation, en marque-page de mon carnet sur lequel je travaille tous les jours, elle est en anglais, je ne vais pas vous la faire en anglais, elle est de l'américaine John Kabat-Zinn. Elle dit ceci, je la prends en anglais, tiens, pour ceux qui sont dessus. C'est d'autant plus terrible pour moi que je suis anglophile, mais très mal anglophone, et qu'en plus, vous allez voir la citation, je ne sais pas nager, donc ça va vous faire rire. C'est « You can't stop the waves, but you can learn to surf ». Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer. C'est ce qu'il nous reste à faire. Bonne année à toutes et à tous.